Les épisodes de T'es pas un vrai fan podcast sont d'abord filmés pour YouTube,
puis ensuite transformés en audio seulement.
C'est quoi un vrai fan? Selon Julianne, là, tu peux connaître un refrain puis c'est bien correct. Moi, là, pour moi, il faut que tu connaisses bien plus qu'une seule chanson. Mais il y a une chose qui est sûre, vous allez entendre deux passionnés de musique qui vont déblatérer leurs connaissances. Est-ce qu'on connaît ton band préféré plus que toi? Oui. Bienvenue à T'es pas un vrai fan, toujours avec JP et...
Julian?
Puis c'est qui lui? Ben aujourd'hui, c'est un épisode très spécial parce que c'est le premier épisode qu'on va faire dans un format entrevue. On reçoit aujourd'hui Gabriel Frida. Salut Gab! Pas juste un vrai fan de musique, là, mais aussi un compositeur de musique. Puis il mange de la musique depuis très longtemps. Puis c'est son parcours musical qui nous intéresse aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au podcast.
Hey, fait plaisir. Puis en même temps, c'est assez cocasse de se retrouver ici aujourd'hui, pratiquement 20 ans plus tard, des choses que tu veux me jaser.
Uh-huh.
Shadow Eyes, mon ancien groupe. Fait que je trouve ça le fun, tu sais, que toi qui me suivais à l'époque, en tout cas, on va revenir, mais c'est un drôle de retour. C'est assez cocasse pour moi.
Oui, j'aimerais ça savoir, en fait, comment vous êtes rencontrés, les deux?
C'est dans un contexte professionnel qu'on s'est rencontrés, tu sais, on s'est...
En termes, dans un musique de production, avec... vous étiez dans un... studio.
Presque.
Mais c'était plus genre d'épicerie.
OK.
C'est une épicerie qui avait ouvert en 2004, fait que ça nous ramène dans les années des bandes qui nous intéressent, qu'on parle dans le podcast.
Rapidement, oui, j'avais un gros écart d'âge avec vous autres, là, comme un 3-4 ans, ce qui me mettait dans le range des adultes, des grandes personnes.
On le savait qu'il était superviseur, mais on trouvait qu'il y avait un aspect beaucoup plus qui nous rejoignait nous que les vieux superviseurs. T'avais les cheveux noirs dans ce temps-là, puis il y avait des tatous aussi, on trouvait ça bien hot. Puis on a rapidement compris que t'avais un look parce que tu faisais déjà de la musique et t'avais sûrement commencé ta relation avec la musique avant ça.
Ma relation avec la musique, c'est déjà petit, je m'amusais à... tombé dans la collection de vinyles à mon père. Il y avait beaucoup de Beatles, des trucs comme ça qui jouaient à la maison. Puis, fait que ça a toujours été... mon père, il joue de la guitare, ma soeur a joué du piano. C'était quand même un environnement assez musical. Là. Mais où ma passion vraiment est arrivée, c'est... je m'en souviens là, comme si c'était hier, c'est l'été entre secondaire 1 et secondaire 2 quand un ami est arrivé chez moi avec une cassette de Metallica.
OK.
Le Black Album.
Quand on dit le mot cassette, ça sent encore beaucoup plus rétro.
Certainement.
On aime ça.
Puis j'ai fait des copies de sa cassette. Là. Ça a été game changer. Du jour au lendemain, j'ai lâché le sport. J'étais plus dans le... Je trippais sur le hockey, badminton dans ce temps-là. Puis là, je voulais une guitare. Je voulais... C'est fait. Le déclic était fait.
Puis à part Metallica, y avait-tu d'autres bands que t'aimais suivre ou qui t'ont donné...
Metallica, ça a été ça pendant comme quasiment 2 ans.
Okay.
C'est le seul groupe que j'écoutais.
On a su en direct que finalement, la guerre que Metallica a faite contre Napster avait commencé bien avant avec lui qui copiait les cassettes légalement.
Ben oui, c'est vrai!
Ouais. T'as passé inaperçu, on parle pas de ça, mais c'est toi qui as starté toute cette guerre-là. Là.
Ouais, quand je copiais les cassettes, les oreilles à Lars devaient se sceller.
C'est clair.
Son portefeuille grinché. Hein.
Rapidement, ben, t'as pas juste voulu consommer de la musique, t'as pensé à former un band.
Ah, oui, ça venait avec. Je pouvais pas juste l'écouter, il fallait que j'en joue. Peut-être c'est l'agressivité, c'est quand on est en secondaire 1, secondaire 2, comme 13-14 ans. Fait qu'il y avait comme cette agressivité-là qui me parlait. Puis en plus, c'était pas juste une cassette, c'était pas juste du son, mais on avait regardé un spectacle ensemble. Puis,
les gars, t'avais dû?
C'était le live shit, là, le coffret.
Okay, ouais.
Ça s'appelait live shit. Là, ouais. Quand t'avais un show...
Je pensais que c'était juste une expression, mais t'as pas fait l'archise.
Live shit, binge and purge. Puis t'avais un show à Seattle... de la tournée de And Justice for All, puis tu avais un show à Mexico qui était là vraiment pour la tournée du Black Album. Mais c'était le show de Seattle.
Okay.
Puis juste cette énergie-là qui arrive. Là, puis c'est...
Check donc en bas à droite, dans la tour à CD, il y a comme un espèce de coffret, puis je sais pas si c'est celui-là. Ouais. En bas à droite, là, il y a vraiment des shows live, il y a une boîte plus épaisse, ouais. Qui est comme beige.
Oui, c'est ça. C'est
vraiment lui.
C'est
exactement ça.
Donc, si on l'a.
La caméra, c'est quand même nice. Honnêtement, pour vrai, wow. Hey, je l'ai acheté dans une vente de garage. J'avais réussi à le bargainer à 15$.
Donc, okay, si je peux le. Je veux seulement le mettre dans l'écran.
Mais quand même, fais-le manipuler.
Ah oui, tu sais, tu as le droit de toucher. Hey, bravo, JP.
Non, mais c'est parce que.
À l'époque, le coffret était gros de même. Oui, t'as des cassettes VHS.
Live shit, ben oui.
Ah oui, ça, j'ai écouté ça. J'ai écouté ça, j'ai abusé de ce show-là. Là. Que j'ai copié, c'est une cassette d'ailleurs du même ami.
Donc là, d'écouter Edmund Delca, ça t'a inspiré à partir d'un band?
Ouais. Ah, tout de suite, premier jour, tu sais, j'ai eu ma guitare la première journée, puis j'étais déjà en train d'essayer de composer des tunes. J'avais mon objectif en tête. Là.
Tu vois, moi, quand j'ai ma guitare, j'ai appris à jouer Bonne Fête, puis ça a arrêté là.
J'ai même pas appris Bonne Fête.
Hein. J'ai appris aussi Fade to Black. Mais comme l'intro.
C'est ça, tu commences avec le fait que tu as commencé par Bonne Fête, après Fade to Black. Tu sais, on voit l'évolution.
Mais l'intro de Fade to Black, c'est vraiment facile.
Ouais, fait que là, pour faire le segue, c'est Bonne Fade to Black.
Oh!
Oh, t'as la marmouche!
J'espère qu'il n'y a personne qui va voler cette idée-là. Quoi.
C'est vraiment meilleur que notre gag de rapper à l'épicerie.
Non, ben t'es gentil d'appeler ça un gag. Quand tu as formé ton band, est-ce que... Tu te voyais déjà dans les plus hauts sommets. T'avais-tu des aspirations concrètes quand t'as commencé à faire
ça? Ah, oui, il était plus que concrète, peut-être trop. Là. Il fallait que je mette le travail avant le succès. Mais oui, c'est ça que je voulais faire. Là.
Okay.
Aucun doute. Là. À petite ou grande échelle, moi, ce que je voulais, c'est je voulais être en tournée puis vivre ma vie avec la musique. Là. À composer, enregistrer, tourner, jouer.
On a parlé de Shallow Eyes, qui était, moi, le premier band que j'ai connu quand j'ai commencé à suivre Gab. J'ai encore des items très rares.
C'est des raretés.
Raretés qu'on dit.
Là, que même voilà. Gab n'a plus.
Ouais.
On lui a offert d'y revenir, il ne les voulait pas, je comprends pas.
Mais... ça vaut plus cher dans vos mains que dans les miennes.
Tu as joué de la musique avant Shallow Eyes, quand même.
Oh, ben, Shallow Eyes... On était, j'avais, ben justement, on parlait de 24, 25 ans dans ce temps-là. Puis j'ai commencé, je pense, mon premier band, j'avais 14 ans quand on l'a commencé.
Fait 14 ans, ça, c'était dans les années 90, là.
Ah oui, 95. Le premier show qu'on a fait, c'était Dookie de Green Day au complet. Mais wow. C'est ce qu'on est... là,
c'est plus cover band, à fond.
Oui, ben on reprenait, puis on voulait faire. Il y avait une journée où c'était des spectacles, une journée genre porte ouverte ou je sais pas trop, là, à l'école. Puis il y avait des spectacles à l'auditorium, dans la cafétéria. Puis là, nous, gang de petits gars, ben contents, ben excités, ben on décide, on s'inscrit. Un show à la cafétéria, un show à l'auditorium, mais on n'a rien monté. Là. On n'a même pas commencé à jouer ensemble, mais on book deux shows.
C'est mal, ça marche.
Fait que, mais on était dans un cours de guitare, là, c'est en secondaire 3. Fait que t'as une.
École secondaire de Brossard? À Brossard?
Non, à Monseigneur Parade.
OK.
À Saint-Hubert.
OK.
Puis, c'est ça. Fait qu'on a monté deux shows différents. Un show acoustique, où est-ce qu'on jouait des tonnes de Beatles, puis de probablement Nirvana Unplugged. Il devait avoir des trucs comme ça. Puis, un show électrique à l'auditorium dans la même journée où on a joué l'album Dookie de Green Day au complet. Ouais, c'est pas que ça a été comme ça que ça a commencé.
J'imagine que c'est non, ça, c'est pas disponible en DVD, j'imagine.
Écoute,
ben, peut-être.
Le show de Dookie, ça a été longtemps sur un VHS qui...
Il y a quelqu'un qui a acheté Blu-ray.
Ah, en théorie. Ah.
Ça, c'est pas mal les années piques de Blu-ray en soi.
Tout à fait, tout à fait.
Revenu pour notre audience plus jeune, c'est le nom de la couleur de la nuit.
En passant, tu parles d'un show acoustique. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de l'épisode parce qu'il va y avoir une surprise pour ceux qui nous écoutent jusqu'à la fin. Fait que finalement, c'est devenu plus concret avec Shallow Eyes. Je ne sais pas si les membres de Shallow Eyes, c'était des gens avec qui tu avais fait ces shows-là de Dookie.
Le drummer. Wow! Rewind la cassette. Attendez, j'ai oublié un band entre deux. Donc, je pense que c'est en 2001-2002 que je m'inscris à l'école du show business à Montréal. C'est là que j'ai rencontré Marc, qui est devenu le bassiste, claviériste de Shallow Eyes. Mais à ce moment-là, c'était pas Shallow Eyes, c'était Window Pane, comme un corps avec fenêtre. Là.
OK.
Fait que là, c'était avec Eric Audrum, qui avec qui j'avais joué au secondaire. Là, il y a eu un split.
Ouais.
puis peut-être une pause de un an. Puis à un moment donné, c'est Marc qui me rappelle, puis qui fait « Hey, tu sais, il me semble que c'était bon ce qu'on faisait, mais est-ce qu'on refait quelque chose, mais toi puis moi ensemble, puis on verra la suite. » Fait que ça, c'est devenu Shallow Eyes.
OK.
Puis Shallow Eyes, on a composé, admettons, cet album-là, ouais. Stay Outside. On a enregistré à deux, moi puis Marc. Fait que Marc était autant bassiste, clavieriste, chanteur, drummer. C'était un multi-instrumentiste.
Instrumentaliste, mais instrument. écoute, nous autres ici, c'est l'effort qu'on valorise.
Instrumentaliste, c'est OK, parfait, parfait. Fait que lui, il m'a aidé beaucoup à me trouver. Okay. Tu sais, moi, j'avais mes petits démos enregistrés sur des tapes cassettes, là.
C'est ça, il arrivait à mettre un certain ordre dans les idées que tu avais,
à
mettre une structure, si on veut, là.
Il y avait une intelligence musicale plus élevée. Par contre, lui, il était zéro compositeur.
OK.
Fait que lui, il était content de trouver ce match-là pour pouvoir aider quelqu'un qui est bon à la composition, mais qui n'est pas si nécessairement si bon musicien que ça. Ça a fait une bonne équipe, les deux ensemble.
Puis quand vous étiez Shallow Eyes, comment faisiez votre promotion avant les shows?
Pour faire connaître.
Pour faire connaître, en fait, oui, c'est ça.
À l'époque, il y avait une façon qu'aujourd'hui, on n'en parle plus beaucoup. Ça s'appelle le téléphone.
Parle de la ligne fixe?
Oui, la ligne fixe.
Ça, il y en a vraiment aujourd'hui qui ne savent pas c'est quoi.
T'avais un calepin. Un calepin, c'est un petit truc en papier où tu peux écrire. Puis,
en ordre alphabétique.
En ordre alphabétique.
Wow!
Les noms de tes amis, leur numéro de téléphone, puis perds pas ce calepin-là parce que sans toi de ta mémoire. Ah oui, on connaissait tes numéros de téléphone. Ouais.
C'est vrai, on travaillait
là-dedans. J'en ai encore plein par cœur là, ces années-là.
Oui,
c'est genre des années plus là.
Ouais, c'est ça.
Le deuxième média qui était, si vous vous rappelez, de MySpace.
MySpace avec Tom.
Avec Tom.
Tom, qui était le premier ami de MySpace.
Oui,
c'est d'ailleurs, il
nous l'imposait, hein.
Ouais, t'étais obligé d'être son ami. D'ailleurs, MySpace, c'était comme le... C'est le créateur de
Tom. Pas Tom DeLonge.
Pas Tom DeLonge. Okay. Non, c'était le créateur... Okay. Tom, c'est ton premier ami sur MySpace quand t'es dans MySpace. Donc, okay. MySpace, c'était... En fait, je m'en avais parlé au passé, mais c'était un groupe... C'était un des précurseurs des réseaux sociaux. Et beaucoup de bands émergents ont commencé là. Et MySpace, coup de théâtre, existe toujours, malgré tout. Et... Ah. Ton MySpace de Shallow Eyes, j'ai fait des recherches, bon. Existe toujours. Et j'ai trouvé, je pense, 4 ou 5 tunes qui n'étaient pas sur tes albums.
Stock qui dort.
Mais
côté marketing, Gab, là, t'as des faiblesses.
Ouais, ouais.
Stock qui dort.
C'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui devait manager cette page-là encore. Les photos, c'est des dead links, mais on voit les descriptions. Donc, mais c'était très intéressant.
La musique, est-ce que c'est toujours possible de l'écouter?
Ça avait l'air, oui, mais j'avais pas plugin les speakers, mais ça avait l'air d'être disponible encore.
Ouais, ça, c'est intéressant.
Ouais.
Puis il y avait des photos qui n'étaient pas accessibles.
Non, mais tu vois les descriptions, genre comme Gab qui se fait arrêter par la police. Genre,
moi, je t'ai connu en tant que Gabriel Morin, mais là, maintenant, c'est plus Gabriel Freda qui est un nom d'artiste. Qui est...
Un nom d'artiste, un avatar, une façon de que mon nom sonne cool.
OK,
si. Parce que c'était Gabriel Morin, puis à l'époque où est-ce que j'avais vraiment envie d'être connu, je trouvais que Morin, c'était pas international.
OK, oui.
Okay. Mais comment c'est venu? C'est venu pour un intérêt aussi autre que la musique, mais dans les arts, pour ce qui est des arts occultes, puis ces trucs-là.
Okay.
À cette époque-là, je faisais des recherches sur Aleister Crowley. Je sais pas si vous connaissez.
Moi, ça ne me dit rien.
C'est le fameux Mr. Crowley de Ozzy Osbourne.
Okay. Ouais, oui, j'ai lu... on l'enlève pas, mais c'est Trout Gars que tu sais, ça fait...
Non.
Non, OK, excuse-moi, parce que Ozzy Osbourne a fait une tour... Je l'enlèverai, cette partie-là, mais...
Non, c'est intéressant. Ça se peut que ce soit intéressant. On a l'expérience que des fois, c'est intéressant.
Dans le fond, il a fait une toune sur un homme qui a tué sa fille handicapée.
Oh.
C'est un mercy killing. Là. Donc, elle avait 11 ans. Elle avait vraiment une qualité dégueulasse.
Ouais.
Il décide de mettre fin à ses jours. Puis c'était au Canada, c'était en Alberta. Puis ça a comme passé les médias. Puis, tu sais, les gens ne savaient pas quoi penser de ça. Comme, c'est un mercy killing... Elle avait vraiment pas de belle qualité de vie, il lui a rendu service.
Quasiment les débuts de l'aide médicale à mourir.
C'était ça, puis elle faisait des crises épileptiques tellement violentes que ses os brisaient. C'est insane. Fait que c'est vraiment. Wow. Puis là, ça a comme vraiment passé un vidéo assez qu'au UK ça s'est rendu parce que finalement, Ozzy Osbourne a fait une chanson là-dessus.
Et c'est fou comment, à un moment donné, il faudrait faire juste un espèce de recensement à quel point tu arrives tout le temps à plugger le UK dans chacun des épisodes.
Pour vrai?
Oh ouais, tu sont pas sûr du UK. En tout cas, moi, c'est je suis... Bon, non, mais c'est vraiment drôle.
Je vais essayer discrètement, pendant de vous parler, de retrouver la chanson parce que ça va me gosser. C'est Latimer's Mercy. Ben là, excuse-moi,
oui, c'est Rick Street dans le feu, c'est vrai.
Je parlais de Mr. quelque chose, je sais pas, ça veut dire
Mr. Crowley, oui. Aleister Crowley, qui était un homme de science occulte, là, qui était dit « the wickedest man of his time », puis le monde, il avait peur de lui, parce qu'il était supposément, il pratiquait la magie noire.
Il sortait de l'ordinaire, là. Oh, ouais, ouais.
Puis comme tout bon gars de l'occulte, ben il a fait fabriquer son propre tarot.
OK.
Puis son tarot, il est toujours à vendre. Puis l'artiste, puis là, dans ça, là, je m'intéressais à ça. Puis l'artiste qui a dessiné le tarot, elle avait, lui, Aleister, il faisait juste dire à la dame, c'est ce que les images que j'ai en tête, et ceci. Puis elle peignait sans même savoir de ce qui se passait. Puis cette madame-là, s'appelait Frieda Harris. Puis quand j'ai vu ce nom-là, j'ai fait comme...
Révélation.
C'est vraiment beau, j'aime ça. Puis il me semble que Gabriel Frieda, ça
ouais.
Puis c'est simple. Donc.
Nous, on connaît aussi ton autre projet.
Il y a eu une transition entre Shadowwise.
Il y a eu une espèce de transition. Mais premièrement, on avait un premier drummer qui s'appelait Hugo. À un moment donné, Hugo est parti. PO a remplacé Hugo. On a continué à faire des shows. Puis en même temps, ben, nous, où est-ce qu'on pratiquait à Cité 2000, il y avait le local juste à côté. Il y avait de quoi qui se passait, tu sais, avec Marc qui venait, qui allait pratiquer avec un gars qui jouait de la guitare. Puis à un moment donné, j'ai juste commencé à jammer avec eux autres. Puis on a juste mis Charles Weiss sur la glace. C'est comme, ah, en attendant, on va faire ce truc-là. Puis à un moment donné, Marc aussi m'a annoncé qu'il déménageait, qu'il retournait à Sherbrooke. Et ça allait être difficile de faire de la musique. Mais il n'y a jamais eu break-up officiel de Charles Weiss.
Mais il devrait avoir un grand retour.
Ah, il peut avoir...
On a là-dedans, les grands retours.
Moi, ça fait 20 ans, j'espère, là. C'est long.
Il est arrivé en une journée où Hugo est venu au local, puis on a fait... On a fait 2-3 tonnes de...
Ça, c'est quelle année environ?
Ça, là, je te dirais que ça serait peut-être autour de 2013.
Parce que les deux premiers EP, c'est 2005-2006.
Ouais.
De mémoire, là.
Puis il y en avait un troisième qui est enregistré, qui est sur MySpace.
Qui est sur MySpace, mais qui n'est jamais sorti.
Qui n'est jamais sorti.
Qu'est-ce qui t'a amené à ton nouveau projet?
Admettons, dans ma vie personnelle, à ce moment-là, quand Marc est redéménagé à Sherbrooke, là, je me suis ramassé où je ne faisais plus de musée. Et puis, ça n'a pas duré longtemps. Mais en même temps, ben, on achetait une maison, moi puis ma conjointe. Elle est tombée enceinte. Puis, pendant ce temps-là, ben, moi, chez nous, je m'amusais à enregistrer. Je découvrais enregistrer toute la musique par moi-même. Même le drum avec les drum machines. Puis, j'ai acheté de bass. J'ai acheté, tu sais. Fait que je me suis amusé. J'ai enregistré un album, là, une dizaine de chansons.
Tu avais un nom déjà?
Oui, Science for Lunatics.
OK.
C'est-à-dire que je mettais ça au nom de ça, mais j'étais le seul membre actif.
Oui. Fait que ça a commencé comme ça, toi seul, qui fait vraiment tout ce qu'on peut entendre, c'est tout toi qui as fait ça.
Ouais.
OK. Un album disponible, un album solo?
Non. Ah. Ça se peut que...
Sur MySpace. On fera nos recherches.
Quand on parle du stock qui dort.
Ouais, ouais, ouais.
Sur un autre MySpace. Là.
Ouais, sur un MySpace qui s'appelait Science for Lunatics.
On est vraiment?
Je ne sais pas si je m'étais rendu au bout de publier, parce que j'écrivais, je composais, puis je sortais la toune sur MySpace. Fait que quand elle était disponible, quand il y en avait une autre disponible, c'est comme j'enregistrais, puis je publiais mon album au fur et à mesure qu'il se plaisait. Là, je ne sais pas si je me suis rendu au bout sur MySpace. Je commençais à trouver que ça n'avait plus sa même valeur. Là,
ouais, MySpace, là, on est rendu quoi, début 2010? MySpace,
ouais, non, ouais. Ouais, 2011-2012, okay. On commence à trouver que c'est...
Ça a commencé déjà avec le Facebook qui était très gros. Là.
Ouais, c'est ça.
Puis tu t'es mis à la recherche de nouveaux musiciens parce que là, tu disais que tu étais en solo pour faire tout ça et tu as décidé de te mettre à la recherche de nouveaux musiciens.
Ouais, ben à un moment donné, j'étais tanné. J'avais toutes ces chansons-là qui étaient écrites et enregistrées. Donc, je me cherchais. J'avais le goût. Fait que j'ai trouvé un site là, que j'appelais le Tinder des musiciens.
Swipe left, swipe right.
Ah, pratiquement, ouais. C'est peut-être ton annonce, c'est d'être cute, là, tu sais. Puis, je suis comme, ah, moi, je suis un guitariste.
Je cherche rien de sérieux.
Ouais, recherche passée, c'est drummer pour
faut la science sérieuse. C'est pas relation sérieuse.
Des gens qui faisaient déjà de la musique ensemble, qui sont venus comme un package deal, un peu.
Ben, pour répondre à mon annonce, il y avait deux gars qui, eux, avaient un projet ensemble, qui étaient un drummer puis un bassiste. Il y avait un guitariste aussi à ce moment-là. Puis, il y avait un projet. Puis là, ils cherchaient justement un deuxième guitariste qui pouvait chanter. Ben, c'est comme si mon annonce puis leurs besoins se sont comme rencontrés. Même si c'était pas exactement ça que je recherchais, mais ils m'ont fait écouter des maquettes, puis j'ai trouvé ça super bon. Je me souviens qu'à l'époque, ça me faisait penser à du Muse, la bass bien présente, Fuzzy, puis j'aimais ça. J'ai dit, OK, je veux travailler avec ce monde-là, mais finalement, il n'y a jamais eu l'autre guitariste. L'autre guitariste, il est parti à ce moment-là. Il y avait une transition eux-mêmes dans leur vie. Là, ben, on a vu le jour.
Puis ils ont pris le nom que toi, tu avais déjà, parce que là, vous avez dû vous trouver un nom à ce moment-là.
Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de nom. Puis 2013, on a composé, mais on a fait aussi une audition parce que moi, j'étais chanteur avant, mais là, on avait le goût d'avoir une chanteuse, comment je pourrais dire, une front, là, quelqu'un qui fait juste chanter, puis qui est un personnage de scène, plus qu'un groupe rock typique. Là, on avait présenté quelque chose d'un petit peu plus peaufiné comme ça. Puis, on a fait une couple d'entrevues, puis on a trouvé quelqu'un. Puis là, à ce moment-là, ben, c'est quand on est venu au moment de chercher un autre band. On écrivait plein de noms. Puis à un moment donné, c'est la chanteuse qui a dit « Pourquoi t'as pas proposé Science for Lunatics? » Tu sais, je trouve que c'est le meilleur nom. Puis là, je dis « Ah, ben là, je pensais pas... je voulais voir, vous l'imposer.
Ouais, » ouais, ouais.
Ben là, tout le monde était comme « Non, non, non!
» C'est difficile de trouver un nom, hein, JP?
C'est un peu tout croche, on est en construction. Ouais. On sait même pas
le nom de ce qu'on va faire. Bonne nouvelle, on a le début d'un décor, mais on a toujours pas de nom. On n'a pas encore de titre. C'est difficile de trouver un titre. Ouais. Ben, on vous invite officiellement au podcast T'es pas un vrai fan, parce qu'on a trouvé notre nom.
Yes, finalement.
C'est triste. Oui, oui, oui. nous autres, on sait c'est quoi.
Je pense qu'on a 4-5 épisodes, pas de nom.
Avec Science for Lunatics, tu as vécu une expérience vraiment, vraiment big pour toi, côté musical, côté composition, quand vous avez enregistré... le dernier EP.
Ah, ben des gros moments. Mes gros moments musicaux, j'en ai vécu beaucoup avec Science for Lunatics, mais oui, le dernier EP qu'on a enregistré, on a décidé de s'offrir un luxe, un bon studio, mettre la totale. Là, c'était l'équivalent de quelqu'un qui décide de partir un mois au Japon. Je m'en vais pas au Japon. J'avais envie de ça. Quand on fait de la musique, ben on commence, on fait des petits enregistrements, on sait pas trop ce qu'on fait.
Comme avec Chaloise, un peu, tu disais que c'était très...
C'était homemade.
Ouais.
C'était très, 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 très salon. Puis essayer d'enregistrer de la musique quand il y a un gros band de death metal qui joue juste à côté. Fait que là, tu fais comme, bon, mais c'est pas aujourd'hui que ça va se passer. Puis...
comme quand l'aspirateur part des fois.
J'ai pas été, mais j'étais comme, je veux pas avoir l'air de Milan.
Tu veux pas montrer que mon appart est BS.
Ouais, toujours vous parler de moi, tu
sais. C'est sûr que dans ta vie, dans ta carrière de musicien, t'as envie de vivre le studio avec des producteurs, puis qui vont te dire tac, 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 puis qui savent comment que ça fonctionne, puis si te le font recommencer 20 fois, ben c'est bien parce qu'il y a une raison.
Puis le producteur, il avait déjà fait d'autres choses, il avait travaillé avec d'autres artistes.
Il y a Derek Orsi, puis Dave Traina, qui est le drummer de Damn Troops, qui est un...
Ben, ouais, très bon Ben, ouais.
Ouais, qui font penser un peu à Led Zepp. Hein. Ils ont comme cette espèce de groove...
Mais une bonne façon, parce que je l'ai jamais déclaré ouvertement ici, mais j'ai une énorme haine envers God of Van Fleet. Qui est comme vraiment une copie. C'est comme pas original, c'est vraiment...
Même Master, c'est... Ça reste que c'est...
Ah, oh, écoute, j'ai arrêté d'écouter après. Oh, ouais, okay. Ce qui joue à la radio, je le déteste. C'est genre rare que... C'est vraiment rare que je vais skipper... Genre, si il y a la radio qui joue, c'est rare que je change de poste, mais God of Van Fleet, c'est comme... Ils n'ont aucune originalité, ils n'ont rien à dire que je prends pas des heures.
Alors, mais c'est ça, ils sont, eux autres, quand ils ont commencé, c'était un cover band, c'était le premier, c'était jeune aussi.
Hein? Ouais.
Comme pas de, encore de personnalité musicale, c'est pour ça que je demandais, est-ce que maintenant, ils ont commencé à avoir leur son à eux autres, mais moi non
plus. Je ne pourrais pas dire, puis j'ai pas envie de leur donner une chance. pour moi, c'est quand même, mais c'est ça, mais tu vois, effectivement, Dem Truth, c'est vraiment, puis c'est aussi, c'est une chanteuse aussi.
Ouais.
Puis, il n'a pas la chance de les voir en live, mais vraiment très bon Ben.
Il faut vraiment que tu les détestes parce que tu es quand même capable de donner une chance à un gars comme Ronnie Radke, mais ces gens-là, c'est no way.
Ouais, c'est vraiment, en tout cas.
Ouais, je comprends. Mais ça me fait penser à Silverchair aussi quand ils ont commencé, puis qu'il avait 14, 15 ans,
ouais.
Puis qu'il faisait du grunge là, à la Nirvana. Mais écoute, ce que ce que Daniel Jones, le chanteur-compositeur de Silverchair, a fait à 14 ans, puis ce qu'il fait à Star, ça
fait la même chose.
À rien à voir. À Star, il fait de l'électro-pop. Des petites voix de tête. Là, c'est...
Mais tu sais, le pire, c'est. Ce que j'aimais pas, je reviens à faire sur God of Envy, mais ce que j'aimais pas de ce band-là, c'est que en plus, les gens les annonçaient à la radio comme écoutez, si vous aimez Led Zepp, c'est la continuité. Puis j'étais comme non, si j'aime Led Zepp, je vais réécouter Led Zepp. C'est ça que je vais faire. Je vais pas écouter un band qui essaye de sonner comme Led Zepp. Bon,
ouais, c'est quand on dit que les covers qui sont identiques, ça vaut pas la peine.
Ben, c'est ça, très précis.
C'est une publicité qui est un petit peu visée sur la nostalgie. T'sais.
Ouais, je pense
pas. La continuité de Led Zepp. Il n'y a pas de continuité. Il y a Led Zepp, point.
Exact.
Il y a du copiage, puis de vouloir faire semblant. Mais genre, je vais pardonner parce qu'il était bien jeune. Là, puis quand t'es jeune, tu fais juste comme les autres. Là.
Ouais, effectivement. Ou quand t'as 30 ans, tout le monde. Si t'as 30 ans, tout le monde prend pas un podcast.
On n'est pas vieux, on est moins jeune, c'est pas pareil.
Quand t'as 30 ans, c'est parce que c'est comme le running gag à 30 ans, tout le monde prend un podcast.
Ouais.
Moi aussi, ça fait 10 ans que je vais passer un podcast. Là, puis j'ai 43, ça veut dire qu'à 33 ans, je vais passer un podcast. Là,
Si t'en pars un, ça serait comme un épisode crossover.
Ça va être si vous en parler pour la première fois, tu sais, hein, qu'il y avait ça sur Internet.
Ça devait être quand même assez le fun comme expérience.
En studio. Ah oui, mais tu arrives là. T'arrives là à 11h le matin, puis tu vas repartir à 1h, 2h, 3h. Tu sais, t'attends que la séance, puis il est on repeat, là, jour après jour après jour après jour.
Puis le droit, pas le droit, mais le counter, il calcule là, tout le.
Counter le cash.
Parce que j'ai déjà fait une expérience studio, c'était un peu plus petit, là, parce que j'ai, je ne vous dirais pas où la trouver, mais j'ai le tune up there, quelque part, avec un projet.
Sur respect.
Non, avec un projet de Boris. Non, tu peux l'acheter, ça.
Fait que les deux, vous avez du stock qui dort, t'as de l'argent qui
dort. Non, ouais. En tout cas, puis c'est un projet. Je l'aime encore, cette tune-là. C'est juste que c'est un projet de Boris.
C'est sombre, clair.
Ben, je me rappelle la photo de toi qui avait passé, toi, devant un micro, vraiment, avec un studio autour. Je me rappelle de cette photo-là.
Ah ouais, bon, ouais. Mais puis c'est ça, c'est comme. C'est vraiment ça.
Je confirme que ça a déjà existé, mais j'ai aucune idée où c'est qu'on peut trouver ça à ce temps.
iTunes, mais je dirais pas le nom de l'artiste du projet. J'ai plusieurs tunes, mais celle-là, c'est la seule qu'on a mis. Mais on l'avait arrangé en studio et finalement, c'est ça. C'est que chaque fois que tu reprends, tu sais, moi, je suis pas à l'aise avec ma voix sur certains clips, mais c'est que chaque fois que tu reprends, ça coûte. Puis là, à un moment donné, tu sais que tu coûtes au band.
Ouais.
Puis tu te sens mal d'être cette personne-là. Tu sais. Anyway, c'est ma mini-expérience, mais ça coûte.
Ah, oh, moi, j'allais. I relate.
Ouais.
Je me revois là. Tu sais. Puis ça a été long. Les tracks. J'ai été plus rapide. Ça me dit.
Tant mieux pour faire. Tant mieux.
Mais,
c'est à cause des autres.
En même temps, c'est pas la faute aux autres non plus.
Premièrement, c'est ingrat pour le drummer parce que le drummer, c'est lui qui arrive à fret. Tu sais. Puis c'est, moi, c'est toujours le premier qu'on enregistre. Mmh. Puis. Puis là, ben, nous autres, pendant que lui, il essaie d'enregistrer son drum, nous autres, on joue avec lui pour l'accompagner. Avec nous autres, on se réchauffe. Mm. Quand on finit par taper nos affaires une couple de jours plus tard, là, nous autres, on est rendu des gars. Là, c'est là, ben, lui, il est obligé de. Après ça, là, il écoute le bassiste faire ses tracks par-dessus ses affaires que lui, il est peut-être pas nécessairement fier, mais là, il est trop tard. Ah. Mm. Puis, non. Puis là, les voix, ben, c'est la même affaire. Hein, les voix, c'est là que les front. Fait que si tu veux pas mettre des mauvais vocales sur un album, c'est sûr. Une autre expérience qu'on a vécue qui était vraiment le fun, c'est, si je ne me trompe pas, c'était en 2015, on a participé à un concours qui était Envoie les macadam.
OK.
C'est un concours que...
C'est pas pour les gens allergiques.
Non, pas les noix de macadam. Non, Envoie les macadam, il y a un gros festival à toutes les années à Québec. Je ne sais pas si ça existe encore, mais à chaque année, tu avais des gros headliners. Puis cette année-là, tu avais... des bands punk, là, puis là, juste parce que je veux les dire, je les ai pas. On avait des passes backstage, puis là, ben, je veux dire...
Tu te rappelles-tu du nom du festival?
Envoie les macadam.
Non, mais sur le gars, t'as gagné, t'as dit que t'as eu accès après ça.
Ouais, ben c'est ça, c'est parce qu'Envoie les macadam, ils ont comme des branches.
OK.
Fait que là, ils ont leur branche concours, tu sais.
OK.
Envoie les macadam, c'est le festival.
OK.
Ils font leur concours, comme un concours à Montréal, un concours à Québec.
OK, je comprends, OK.
C'est comme le Star Academy.
Ah, ouais, dans ce genre-là, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, nous autres, on était les gagnants de Montréal. Ça a été gros, là, tu sais, pouvoir être backstage puis rencontrer des grands artistes, puis...
Est-ce que tu te rappelles certains artistes que t'avais?
Ouais, tu me mets sur pause. Rise Against.
OK.
Oh, wow, ouais, oui. Très bon même.
Étais-tu déjà connu dans ce temps-là?
C'était ça, c'est en 2015, ça, qu'il y avait déjà plusieurs albums de sortie. C'était les headliners, là. Mais méchante expérience. On est revenu de là, puis c'était dur de revenir à la maison là, quand tu viens de passer un week-end backstage. Ouais. Puis,
Ben, parlons-en de la maison, parce que maintenant, ben, comme j'ai dit plus tôt, pas qu'on est vieux, mais on est moins jeune.
Exact.
Là, mais on a des obligations familiales et tout. Fait que, est-ce que tes aspirations ont changé, parce que tu fais toujours de la musique, mais comment tu vois ça maintenant?
La chose qui change, c'est sûr, c'est le temps, la disponibilité. Puis, avec le temps, la musique devient un outil, un accessoire plus pour me permettre de vivre quand même ma liberté. Dans ce monde-là. Quand je compose, quand je suis avec le band, quand je suis sur un stage, c'est là que je peux exprimer vraiment ma liberté en tant que personne. T'sais.
Ta passion.
Sans dire que les autres sphères de ma vie, je me sens en prison, mais il faut suivre des
lois. Si jamais ta femme t'écoute en ce moment, elle veut que tu sois... J'ai dit pas à la maison, là.
Je vous jure, j'ai jamais été.
Je sais que tu me dis pas en peur. Non, mais il y a des règles à suivre là, avec deux enfants, puis il faut se lever à telle heure, puis il faut que ça roule, tu sais, rock and roll, puis les devoirs, les leçons, la vaisselle, le ménage et tout le tralala. Mais c'est vraiment important pour moi de garder ça dans ma vie. Où est-ce que ça a changé? C'est que je ne pense plus nécessairement avoir le temps et l'énergie d'en faire une carrière. Mais à partir du moment que je réalise que j'ai plus ces ambitions-là, mais là, c'est vraiment la passion puis le côté artistique qui sort plus. Fait que j'ai vraiment plus de fun à faire ce que je fais parce que je me mets moins de pression. J'ai le seul objectif que j'ai, c'est de me faire plaisir. Puis pas juste faire plaisir à mon ego et ma carrière. Puis,
ça devient une espèce de poids un peu qui...
C'est même les jeunes, quand t'es dans ta vingtaine, t'as ce poids-là, tu sais, de prouver, tu sais, de...
Plus en compétition,
soit,
ouais.
Ben, que ce soit par des études ou par, si tu veux, tu sais, pour moi, un band, c'est comme être un entrepreneur. C'est en soi qui est pas facile parce que tu comptes sur... Il y a beaucoup de facteurs, mais bon. Fait qu'on est très ambitieux dans notre vingtaine, tu sais, de où est-ce qu'on s'en va puis où est-ce qu'on s'enligne. Fait que c'est sûr que tu te mets une pression, tu sais, de que là, j'ai pu, parce que ma vie est faite, j'ai ma maison, ma famille, je suis content, tu sais, je suis content, tu sais, mais je peux pas...
Tu considères pas ça comme une prison, là?
Non.
Ouais, je serais curieux, parce que là, tu as eu plusieurs projets.
J'ai eu surtout la permission de venir ici, ça.
Donc, t'as eu...
Le mot permission vient te rappeler un peu ce que je disais par rapport à la prison, tu sais. Il laisse pas sortir, tu sais.
Donc, t'as eu plein de projets. Est-ce que quand tu réécoutes, là, bon, on avait des blagues avec Charles Weiss, est-ce que tu...
Mais moi, j'ai trouvé vraiment pas drôle. Moi, j'adore Charles Weiss.
Quand tu réécoutes est-ce que tu haïs entendre ce que tu écoutes? Est-ce que tu aimes ça entendre? Est-ce que c'était nostalgique? Est-ce que tu aurais fait des choses différemment, tu sais?
Je trouve que j'étais un génie avant son temps.
OK, cool.
Ouais. Mais j'haïs ça m'entendre chanter.
Ouais, c'est cool. Quand je fais le montage du podcast, c'est ce que...
Non, mais... Il y a des tunes là-dedans, puis je trouve ça dommage, puis il faudrait quasiment que je remonte cette veine-là, puis qu'on réenregistre tout, parce que beaucoup de choses que j'aime pas entendre quand j'entends ça, c'est juste dans le manque d'expérience. Oh, c'est mon manque d'expérience vocale, mais c'est pas juste vocale, c'était en situation d'enregistrement. T'sais. Nous autres, on était des bands, on mettait les amplis dans le tapis, puis on avait un petit speaker, on branchait le micro, c'était à peine si on s'entendait. Fait que il n'y avait aucune pratique, il n'y avait aucune manière de savoir. J'ai vu ça une couple d'années après, Kurt Cobain, ce qu'il faisait, c'est qu'il chantait contre un mur pour avoir un retour. Wow. De sa voix. Ouais.
Il avait pensé à ça, puis le genre d'affaires que tu aurais aimé savoir quand tu parles de calibrer les sons pour entendre tout à un niveau que... Bon. D'ailleurs, on reçoit Kurt Cobain dans ce moment-là.
Il est mort?
C'est ça la surprise qu'on dit.
D'ailleurs, le Nirvana sont en reunion, puis c'est Post Malone, le chanteur.
C'est
vrai pour de vrai.
C'est pas un reunion... Reunion, tu sais, c'est un show. Ils vont faire, je pense, ils ont lancé 3-4 shows. Puis, parce que Post Malone avait un genre de tribute avec eux, ouais. Ça a bien été. Parce que Post Malone a une très belle voix, d'ailleurs, mais il n'a pas du tout la voix de Kurt Cobain.
Il est arrivé dernièrement là, pour les feux de forêt en Californie.
Ouais.
Qu'il y a eu un reunion, puis Nirvana, ils ont fait quatre chansons avec quatre chanteuses différentes.
Ouais, c'était cool.
Puis, ben, c'était cool. Moi, j'ai trouvé ça atroce jusqu'à la dernière.
Je l'ai pas écouté, mais je c'était cool le
concert. On parle de confrontation d'opinion à ce podcast. Non, mais c'est cool.
C'est cool. Je l'ai pas écouté. je sais pas, je veux pas te donner un saut la peau.
Ok. Ben, c'est un petit peu atroce. Puis, tu sais, je trouve ça drôle que ces gars-là, tu sais, je sais pas c'est quoi leur minding quand ils vont chercher ce monde-là. Mais c'est clairement pas pour que ça sonne bien. Sauf par exemple la dernière tune qu'ils ont faite, puis c'est la fille à Dave Grohl. Moi, je chantais. Ouais. Puis ça, c'était.
Grohl, c'est Violet.
Ouais, je chantais All Apologies. Puis ça, c'était très bon. Fait que kudos à ça.
Nice. Puis si tu parlais des enregistrements, le manque d'expérience, t'avais un conseil en ce moment, s'il y avait j'avais des jeunes qui nous écoutent, qui rêvent de former un band, tu leur proposerais quoi? C'est quoi tes conseils pour ces jeunes-là?
Reste à l'école.
C'est tout.
Sinon, tu deviens superviseur à l'épicerie ici.
Non, c'est mettre tout là-dedans. Mais ce qui est fun aussi pour les jeunes aujourd'hui, un band, on dirait que le concept de band devient de plus en plus difficile parce que on dirait que on vit dans une société.
On parle plus d'artistes que de band. Là,
ouais, parce que les gens sont capables de
faire tout seul dedans, en fait.
Exactement. Ouais. Puis, au pire, les musiciens, ça va être ajouté par la suite.
You'll remember.
Ouais. Ouais. Fait que c'est mais un band, apprenez à vous entendre puis à ne pas vous entendre. Puis, mais Diego de côté. Écrivez pas. Quand votre communication, faites-la avec la chose que j'avais dit tantôt, avec le téléphone, avec des vrais mots, puis au pire des petits messages comme ça. Mais...
Puis dans quoi tu notes les numéros? Tu avais parlé d'un genre de machine fucked up.
Un calepin. Ce que tu dis, c'est vrai, dans le sens que moi, j'ai organisé dans une autre vie, j'avais une compagnie d'événementiel, puis quand je voulais aller chercher le plus...
L'époque de DJ Enzo, ça?
MC Enzo.
MC Enzo.
DJ Anon et MC Enzo.
DJ Anonymous?
DJ Anonymous.
C'est vieux, ça.
Ouais, donc, ça...
Salut, Jonathan Proulx. C'est
yo. By the way, moi, j'avais été surnommé M Cigarette à ta job. Dans le temps que je bombais des cigarettes.
J'imagine. Donc, tu sais, quand je voulais avoir le plus de gens à mon événement, souvent, si je faisais pas un événement, j'allais écrire aux gens en privé.
Ouais.
Puis ça, t'avais beaucoup d'impact que quand tu fais un événement Facebook, puis tu fais juste domper tout le monde dans l'invitation. Alors, ceci étant dit...
Je peux prendre une petite minute pour dire que quand nous, on fait un show comme la dernière fois, c'est que premièrement, tu crées l'événement Facebook, puis là, t'envoies l'invitation at large. Puis là, il y a toujours les mêmes personnes qui vont tout de suite cliquer, genre qui viennent, ouais. On le sait. Puis là, il y en a beaucoup là-dedans qui disent « intéressé ». Puis c'est ceux qui sont qui écrivent intéressés. Fait que là, mais il y a toujours un premier step de dire OK, là, on fait l'événement, on garoche à tout le monde. Puis là, à un moment donné, on commence à je vais faire un post Facebook, je vais poster l'événement juste pour crinquer. Puis là, à un moment donné, je vais voir la liste des gens qui disent intéressés. Puis là, eux autres,
Il y avait-tu les peut-être aussi, ceux qui mettent peut-être?
Oui, c'est intéressé.
OK, parfait. Parce que c'est eux autres que tu te demandes vraiment.
Mais même vous, t'as écrit ça. Je pense que JP, t'avais écrit ça intéressé. Fait que là, je suis comme, je vais y écrire en privé.
Oui, parce que les intéressés, ils oublient. Ils se disent, je ne sais pas, je vais être où à ce moment-là de ma vie. Surtout JP qui est un sens de sang de mes fils fixe.
Ici, c'est vraiment juste un studio.
Fait qu'à ce moment-là, ils disent. Parce que moi, je me mets intéressé pour les amants. Et tu oublies, le week-end arrive, c'est comme, shoot, j'avais oublié ça. Ouais. Donc, c'est une bonne stratégie. Puis ceux qui font juste pas du tout voir l'événement, eux aussi, c'est des bonnes personnes à les voir aussi.
Ce que je m'amuse à faire, c'est quand je relance le monde demain, mais. C'est moi qui l'envoie, là, c'est clair, mais le message que j'écris, c'est « Monsieur Gaïda Pida a remarqué votre intérêt pour l'événement de Science World. » Puis, tu sais, c'est comme si j'étais mon secrétaire, mais je sais que le monde, ils savent que c'est moi. C'est pas mon secrétaire, je m'amuse à faire.
Ils t'ont même connu à l'époque de ton ancien nom, tu sais, exactement. Ouais. Mais je trouve ça intéressant quand tu parlais aussi des artistes qui passent peut-être à côté de la collaboration des membres de band parce que tu nous avais parlé d'un épisode qu'on avait fait sur Avenged Sevenfold par rapport à quand un band perd un membre qui ça a vraiment un gros impact aussi sur un band qui t'a fait un peu décrocher toi d'Avenged Sevenfold.
Pour ceux qui regardent, j'ai écouté l'épisode des deux boys ici de Avenged Sevenfold. J'ai dévoré ça parce que ça m'a remis à cette époque-là, surtout quand The Rev est décédé. Puis, je sais pas, je le savais parce que j'avais déjà fait un peu. Tu sais, il y avait du footage, hein, behind the scenes.
Si, ils en ont parlé beaucoup, ouais, de la composition de l'album, exactement. Ouais.
Mais tu sais, avant même que The Rev meure, je pense qu'il y avait des vidéos qui existaient. Puis on les voyait, tu sais, on voyait quel genre de dos c'était.
Le making of de l'album blanc en particulier, il est disponible.
C'est
ouais.
La zone où il avait juste participé.
Ça. Ouais, exact.
Fait que tu sais, tu voyais que ce gars-là. Il y avait une énergie bien particulière. C'est ce que j'appelle vraiment... Ce gars-là, c'était un artiste. T'sais, il était libre. Il n'y avait personne qui gérait. T'sais, il était sa propre vite.
J'ai l'impression que dans Avenge, c'est pas parce qu'il se faisait empêcher de contribuer. C'est qu'il voulait juste pas... Il était content de juste faire ce qu'il faisait parce qu'il faisait Pinkly Smooth aussi. Puis je pense que par après, à un moment donné, là, il a voulu s'imposer. Dans le sens que je pense pas que c'est lui, les gars qui ont dit...
Non, ça lui a pris du temps à prendre de l'assurance, prendre la pression
et l'autre créer. Ouais. C'est exactement ce qu'il me disait.
Mm. Ouais, c'est ça, mais on le sait. Mais, tu sais, mettons sur l'album City of Evil, le drumming là-dessus, c'est juste quand l'album part, Beast and the Law, tu sais, c'est juste, tu fais que ce gars-là, c'est une machine.
Ah ouais,
tu sais, c'est. Puis après ça, ben, l'album blanc, là, on sent vraiment qu'il y avait. En plus, on l'entendait plus chanter aussi, tu sais,
Ouais, j'adore
les chorus, la première tune d'album, Little Piece of Heaven qui c'est parti à lui. Fait que, je sentais que toute cette espèce de folie-là qu'il y avait dans le...
Cette ambiance-là, pas juste le fait qu'il drum, il y a une ambiance autour des chansons.
C'est ça, c'est pas juste un band de métal, c'est qu'il y a un petit côté théâtral. Là, justement, avec A Little Piece of Heaven, là, c'est juste comme là, c'est théâtral garoché en avant. Mais on l'entend dans Afterlife, on l'entend dans Critical Acclaim, tu sais.
On m'a saisi aussi. Ouais. Mais c'est un rôle complet, à la base.
Ouais.
Fait que là, c'est un peu une sainte histoire d'amour que t'as eue quand tu devais...
Non, mais quand il est décédé, t'sais, j'étais content qu'il y avait quand même un autre album qui suivait pour quand même fêter sa mémoire. Mais après ça, c'est quoi? C'était Hell to the King, le single qui a suivi?
Ouais, après Nightmare, c'est l'album qui ont sorti.
The King avec la chanson Hell to the King.
Puis quand j'ai entendu Hell to the King, j'ai fait quand même...
C'est cette ambiance-là qu'on sentait pas, malgré que Hell to the King n'est pas une mauvaise chanson en soi.
Non, c'est une bonne tune.
Tu sais, si
t'as
ça, non, mais en plus, le chanteur, il dit que quand il veut faire découvrir Avenge, je sais pas si c'est parce qu'il veut pas inconsciemment montrer ce qu'il faisait avant, mais il dit que la première tune qu'il propose aux gens quand ils connaissent pas Avenge, c'est Hell to the King.
C'est une bonne Arena Song.
Fait que c'est
déjà
exactement
ça,
en show. Si c'est la première chanson que tu connais d'eux autres, ça peut faire la job. Ouais. Mais comme toi, tu dis, quand t'as connu ce qu'ils ont fait avant, les ambiances, ça sonne incomplet. Effectivement.
Il manque de ref.
Ouais, exact.
Ouais, il manque de ref.
Ben, ça sonne comme un band metal, comme on a déjà entendu. Ouais. C'est ça.
Il manquait de personnalité, ouais.
Ouais. Mm. C'était Avenge, Shard of Ref, tu sais. Ouais, ça, c'est. Mais j'ai pas perdu mon respect, c'est juste quand je. Ah.
T'as pas perdu ton respect aux les musiciens, mais ça n'est moins de chercher. Fait que t'as arrêté d'écouter après ça, pas mal.
Parce que je suis pas un gros fan de metal à base. J'avais juste des affaires qui. T'sais, même quand la première fois que j'ai entendu Avenge, moi c'était Bad Country, puis avec le vidéoclip, pour moi c'était pas un band de metal, c'était un band de c'était genre emo, là, c'était dans c'était à cette époque-là,
ouais.
Michael McCombe Romance.
Ça vient aussi, tu sais, avec leur zone noire, puis tu sais, leur.
Oh, c'est quand Rap, parce qu'il aimait la coupe.
Ouais, c'est oui, puis leur mascara aussi, Zaki, du mascara rose, puis tu sais. Ben écoute, parce que t'es dans notre épisode, parce que t'es dans à notre podcast, je vais te permettre de te lancer une petite curveball. Linkin Park.
Oui.
Donc, on est tous, je pense, ici d'accord que Chester était. Irremplaçable serait pas le terme. C'est un. Dans le sens.
Chester
Pilimitel, le chanteur de Linkin Park. Irremplaçable serait pas le bon terme, mais il y avait un impact important sur Linkin Park. Okay. Toi, comment tu as vécu le changement?
Ben, je vais être bien honnête. J'ai toujours aimé Linkin Park, mais j'ai jamais été un fan, un vrai fan de Linkin Park. Mais j'avais des chansons dans mes playlists. J'ai jamais pas aimé Linkin Park, mais j'ai jamais été un fan de Linkin Park. Puis, en parallèle, j'aimais bien le band Dead Sara.
Le band d'Emilian Strong, qui est l'un des chanteurs.
Puis, comment je les avais découvert ça? Ben, c'était, j'avais été voir Muse pour l'album, pour la tournée de l'album Second Love. Fait qu'on devait être comme en 2012-2013. Puis, j'étais arrivé en retard pour le band qui ouvrait, qui était Dead Sara. Mais j'ai quand même eu la chance de voir comme les deux, trois dernières chansons du set. Puis, je trouvais tellement qu'il y avait de l'énergie. Puis, la voix de la fille, j'étais tombé en bas de ma chaise. Puis, je regardais le show de Muse. Puis, j'arrêtais pas de me dire, oublie pas d'aller voir c'est qui le opener, tu sais. Le show de Muse, il était so-so. C'était d'ailleurs le dernier que j'ai été voir, je pense que deux autres. Puis, mais je voulais vraiment savoir c'était qui l'opener. Fait que Dead Sara, ça fait quand même déjà 12 ans que...
C'est...
c'est tellement dommage quand que on skip souvent les premières parties parce qu'on soupe et tu dois, là t'arrives, tu manques le set puis tu fais, tu manques les derniers tours, tu fais fuck, c'était bon.
Ben non, mais il y a des découvertes, faut pas que t'ailles entendre un show, tu sais jamais le
des fois c'est long, man, c'est deux autres dents que tu t'en fous.
Ah, des fois c'est beaucoup de bruit.
Ouais, j'ai vraiment ces besoins-là.
Honnêtement. Quand tu connais pas les tunes, t'es dans une place où est-ce que le son il est saucé, ouais, ouais. C'est juste comme.
Puis souvent le son est moins bon aussi, ouais. Par exprès. Donc là, ben écoute, tu dis quelque chose, tu as parlé de fan de Linkin Park. Le titre de notre podcast, c'est T'es pas un vrai fan. Moi, petit peu, on n'est jamais d'accord sur qu'est-ce qui est un vrai fan. Toi, selon toi.
Beaucoup trop tolérant, Julien.
Selon toi, qu'est-ce qui est un vrai fan?
Il nous essaie, on va pas me gorger.
C'est là que tu oses faire ça, mon délabeur.
Qu'est-ce qui est un vrai fan? Ben, un vrai fan de musique.
Ou ben d'un groupe en particulier.
Un groupe en particulier. Ou de. Ouais.
Écoutez,
les gars, on va régler quelque chose aujourd'hui.
Ouais. Un vrai fan de musique, c'est quelqu'un qui a besoin de musique dans sa vie. Je trouve que c'est ça. Moi, j'ai tout le temps de la musique, le plus souvent possible. T'sais, quand je vais travailler, j'écoute de la musique. Quand je rentre chez nous, je fais de la vaisselle, j'écoute de la musique. Quand je fais du ménage, j'écoute de la musique. Je gratte ma guitare, je compose de la musique. T'sais, j'ai tout le temps cette relation-là avec. Fait que moi, je considère que je suis un vrai fan de musique. Après ça, ben, t'es un vrai fan de band.
T'as-tu un groupe préféré, toi? Tu peux dire c'est ton groupe préféré.
J'ai eu des groupes préférés.
OK. Ouais, mais ça, tu disais qu'il y avait des bandes que t'écoutais. On a parlé que Charlevoix, c'est là 20 ans, mais que là, t'écoutes plus maintenant. T'as-tu des exemples de ça?
Ben, Metallica.
OK.
Qui était le premier groupe. C'est genre, je l'ai juste trop consommé.
Tu l'as brûlé.
Mais il va m'arriver des fois où... j'ai un trip de Metallica, puis j'ai ma playlist Metallica. Mais Metallica ne se retrouve pas vraiment dans les autres playlists parce que quand j'ai envie d'écouter Metallica, ben j'écoute ça, ça dure deux jours, puis après ça, c'est fini.
Est-ce que tu arrêtes à une certaine année? Parce que moi, je connais des gens que Metallica trouve que les nouveaux albums, c'est de la répétition de ce qu'ils ont déjà fait. Est-ce qu'il y a certains albums que tu arrêtes à écouter? Est-ce que tu écoutes les nouveaux?
Dans ma playlist... principale, ouais. Celle qui est là tous les jours. S'il y a des tonnes de Metallica, c'est dans les plus récentes.
Ah ouais, OK.
Ouais, parce que le vieux stock, je l'ai trop brûlé.
OK, je comprends.
Je l'associe. J'ai la même relation avec Muse. Muse, j'adore ça quand j'ai envie d'écouter du Muse. Dans ce temps-là, je mets ma playlist de Muse puis je vais absorber ça pendant deux, trois jours, une semaine peut-être. Alors ça, c'est fini. T'sais, j'ai plus envie d'en écouter. T'sais.
Quand on parle d'une ambiance particulière, c'est sûr que Muse, oui, c'est une ambiance qu'il faut que tu sois dans un mood particulier. Oui, effectivement.
Puis sinon, ben quand j'étais jeune, j'ai trippé sur Green Day jusqu'à American Idiot. Après ça, j'ai pas aimé ce qu'ils ont fait.
Okay.
Je respecte la band pareil, mais c'est comme... À un moment donné, il y a comme un décroche. C'est devenu trop politique. Billy Joe qui aime ça se faire aller...
Fait que tu te considères-tu comme un vrai fan de Green Day?
Je l'ai été.
OK.
Parce que
on parlait de vrai fan temporaire. Quelqu'un nous a écrit un vrai fan temporaire.
Ah, j'ai aimé ça. Que, ouais, j'ai aimé ça, son commentaire. Ouais. Si tu les écoutes encore?
Oui, j'espère.
Moi, je suis juste fidèle à ma femme. Je suis pas fidèle. Si Ben me déçoit, ma...
On parlait que présentement, si on veut écouter le manuel le plus récent de ton band actuel, Science for Lunatics, il y avait les EP qui étaient disponibles sur Apple Music.
Oui, Apple Music, Spotify. Ça reste quand même que le dernier album qu'on a fait, Ghost and Monster, il date quand même de 2018, là, si je ne me trompe pas. On a eu...
Sinon, il va te reprendre. Il est bon, là, Charles.
Mais je pense que c'est 2017.
Non, c'est vraiment 2018. Okay, on l'écrit.
OK, good. Mais on l'a enregistré en 2017.
C'est quoi, 2000...
On l'a sorti en
2015-2018, c'est ça?
Ouais.
Le premier 2015, Dank Slate 2015, okay, puis le 2018 qui est disponible aussi, Ghosts and Monsters.
Il y en a un autre. Hein, on a un panier de chansons prêtes pour un prochain album.
OK.
C'est juste que là,
c'est quoi, tu peux nous annoncer ici, là, comme ça? Parce qu'il s'en vient.
Malheureusement, des bonnes chansons.
Puis, heureusement, je te dirais.
Les prochaines chansons de...
Ce qu'on va sortir, des chansons de marde.
Non, mais les prochaines chansons de Science for Lunatics vont sonner un petit peu plus proche de Shadowwise que ce que... Ah, ouais.
T'as chaud?
Ouais, non, ah, ouais. Écoute, t'es le plus grand fan de Shadowwise ici.
Mais t'es entendu, ces chansons-là, parce que t'es venu nous voir au 9 novembre. Fait que ces chansons-là...
C'est juste nos plus élevés.
Vraiment un bon show. Puis d'ailleurs, une petite anecdote sur ce spectacle-là. À un moment donné, vers la fin du show, il y a eu un moment tampon. Je ne pourrais pas dire qu'il ne se passait rien. J'ai commencé à demander qu'il chante Shallow Eyes. Et ta conjointe aussi, qui allait mettre le matériel que tu faisais à l'époque, ouais, à m'amener devant le stage en disant « Tu vois, lui aussi, il tripe Shallow Eyes, tu devrais faire. » Puis tu t'es permis une petite prestation d'une chanson de Shallow Eyes.
Ouais, j'ai fait un petit bout.
Hein? Exactement, c'était très bon. Puis on avait un dernier segment qu'on veut commencer.
Ouais, on va commencer avec toi. On peut partir quelque chose. Dans le fond, on veut savoir ta chanson du moment. Donc, c'est pas obligé d'être une chanson que tu as découvert dernièrement. Tant mieux si oui. C'est pas obligé d'être une chanson qui vient de sortir. C'est la chanson là, que cette semaine, tu as écouté abondamment ou qui te fait filer quelque chose dernièrement.
Ouais, c'est obligé d'être juste ça.
Ben non.
Ben écoute, non. Mettons, parce que normalement, on en aurait une chaque.
Ouais. Fait que là, t'as le temps, en plus que.
T'as le droit d'en avoir deux max. Ouais.
La chanson qui est beaucoup en repeat dans ma vie, c'est une chanson de Ghost, Mary on a Cross. Sur Spotify, je pense que ça fait 3 ans que c'est la chanson que j'ai écouté plus.
Puis il y a pas de chanson.
Je la mets pas exprès, c'est juste que je l'ai mis dans toutes mes playlists. Puis je pense que sur Internet, on trouve plusieurs versions. C'est ouais, telle release. Fait que je les ai toutes mises dans ma playlist principale. Fait que elle revient quand même assez souvent. Puis je ne m'attends jamais d'écouter cette chanson-là. J'aime le double sound, tu sais, qui...
Très bonne la chanson Mary on the Cross. D'ailleurs, on a la tune Bloody Mary de Lady Gaga qui lui ressemble en tonalité. Puis en tout cas, l'autre fois, je l'avais en tight Mary on the Cross, mais j'avais écouté Bloody Mary. Fait que c'est vraiment weird. Puis sur YouTube, il y a les mix ensemble. Okay. Les deux tunes.
Sinon... Une chanson que j'aime bien écouter ces temps-ci, c'est la tune, je sais pas si vous connaissez, la chanteuse Poppy.
Ben oui, je m'en vais avoir en show.
C'est la tune Violence
Against. Ben oui, ça c'est avec Battlemans.
Ouais.
Battlemans puis Poppy, c'est Violence, c'est V-A-N qui est au Violence Against Nature. Très bonne tune aussi, oui.
Yes. Et vous autres, c'est quoi?
Ben nous autres, on voulait personnellement se garder une petite gêne parce que c'est toi qu'on soit aujourd'hui. Ouais. Et justement, j'avais mentionné aux gens de rester jusqu'à la fin. Parce qu'on a une surprise pour vous. À notre podcast, va nous performer. Personnellement, ma chanson préférée de Shallow Eyes, Sometimes, va nous la performer ici au podcast. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
Merci énormément d'avoir été là. Donc, pour l'instant, vous pouvez encore juste nous écouter sur YouTube. On travaille pour éventuellement être en vrai podcast. Donc, sur Spotify et je te l'apprends. Non. donc, vos commentaires nous font plaisir. N'hésitez pas à nous écrire encore.
Si jamais vous avez des questions par rapport, on a parlé de ton parcours musical au niveau de faire un band, de jouer avec un band, vous avez des questions pour lui, on va pouvoir lui faire parvenir aussi. N'hésitez pas.
Mm-hmm. Okay. Merci beaucoup de votre écoute.
Bonne soirée.
Alors, salut, c'est Gabriel Frieda. Vous regardez T'es pas un vrai fan. Et je vais vous jouer Sometimes, une chanson que j'ai composée autour de 2005 pour Shallow Eyes. I find my way only when there's nowhere I can go. Am I looking for something that I can't even explain today? At the edge of all, I seem to be alive. I can feel it in my heart, a new time will arrive. Sometimes I fear that all my thoughts were illusions, they were just a dream. Trust myself, but some days it seems so hard to see the end of it all. Is it just coincidence or just reality? People who you love are the ones that hurt you the most. Sometimes my head, it hurts so much. I wish I could just take it all away. goes around, makes me think just how did we survive. Our destiny is written, we just don't know it yet. We only need to follow signs that are down. My only choice in this whole world is to survive. There is no escape. Did you cry and you try? But after all, this is just a game. Every time you feel the end, you just can't give up to life. It's people who you love are the ones that hurt you the most.
Je suis morin ici.
Morin ici,
dis-toi.
T'es pas un vrai fan et t'as une idée originale de Julian et JP. Pour nous suivre et être au courant de tout, venez visiter la page Instagram PasFanPodcast.